it. My girl,
ladies,
what me want you do?
Tick 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 tock.
C'est quoi Frédéric Weizmann ? Tel pourrait être le titre de cette émission. En vérité, nous n'allons pas y répondre directement, mais nous allons rediffuser dans cette émission une rencontre qui s'est tenue à la Cinémathèque de Toulouse le 19 mai. Une rencontre entre Franck Lubé, le programmateur, et Zachary Baquet et Vincent Souladier, qui sont tous deux maîtres de conférences à l'Université Jean Jaurès. C'est quoi Frédéric Weizmann ? Eh bien, c'est tout d'abord un documentariste américain qui a plus d'une cinquantaine de films à son actif, qui marque le cinéma d'une façon obsessionnelle, on peut dire, parce que quand on découvre l'œuvre de Frédéric Weizmann, on est face à quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Une œuvre qui se déploie sur plusieurs décennies, l'homme a près de 90 ans, me semble-t-il. C'est une œuvre dense, riche, qui témoigne d'une société américaine, qui témoigne de l'humanité, tout simplement, même si lui se démarque de tout discours trop analytique ou trop sociologique. Une rencontre donc qui a eu lieu à la Cinémathèque. À l'issue de la rencontre, était projeté l'un de ses tout premiers documentaires, Hospital. On écoute maintenant Franck Lubé, le programmateur de la Cinémathèque, et ses invités de l'Université Jean Jaurès.
Donc avec nous ce soir, Zachary Baquet et Vincent Souladier, donc maîtres de conférences tous deux. L'un, c'est
cinématographique
et civilisation américaine.
Voilà.
Voilà. Donc pour les situer. Je les remercie d'être présents là avec nous ce soir pour discuter de Weizmann. Et puis je les remercie aussi de s'être associés à notre rétrospective. On est très contents à la Cinémathèque de pouvoir vous proposer cette rétrospective en partenariat donc avec l'université à l'occasion d'une journée d'études qui était donc aujourd'hui consacrée à Weizmann. Et on est vraiment ravis de pouvoir travailler Cinémathèque avec l'université, et en plus avec une journée qui a commencé à l'université et puis qui s'est prolongée dans l'après-midi ici même, et donc qui se termine aujourd'hui ce soir en public avec vous. Voilà. Et donc on va parler de Weizmann. Tous deux donc ont organisé cette journée et donc sont à mes côtés, mais les intervenants sont aussi dans la salle, me semble-t-il, sont encore là, certains, tous ne sont pas repartis, et bien sûr je les invite aussi à participer à notre discussion, à réagir, être vraiment dans un dialogue. On a des micros pour le faire circuler, de même que vous, public, poser des questions, nous arrêter ou revenir, demander des clarifications ou autre. Alors peut-être pour commencer, pour ceux qui n'ont pas suivi cette journée d'études, est-ce que vous pourriez nous résumer Weizmann très rapidement et commencer par une présentation peut-être un petit peu générale pour pouvoir rentrer ensuite par le détail, puisque c'était ça ce matin quand vous avez présenté la journée, c'était justement d'essayer de rentrer par le détail dans l'œuvre de Weizmann, ce qui était vraiment très intéressant et très excitant. Donc est-ce qu'on peut commencer par généraliser pour ensuite mettre un coin dans les généralités et aller plus profond?
Alors, Frédéric Weizmann est un documentariste américain qui est unanimement célébré comme étant un des documentaristes contemporains toujours en activité les plus importants. qu'on a souvent associé aux documentaristes des institutions politiques, des institutions sociales, médicales, principalement américaines. Puis plus récemment, dans une carrière française, il s'est aussi intéressé aux institutions françaises. Ce qui nous a intéressé, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons organisé cette journée d'études. On est parti d'un constat, d'une célébration critique, d'une célébration institutionnelle aussi. Il a reçu plein de prix récemment, mais contrairement à ce que cette célébration institutionnelle pourrait laisser croire, ces films sont au final peu vus et tous les critiques qui parlent et qui traitent de Wiseman reprochent en fait le fait que ces films sont difficiles à voir. Alors en termes d'accès aux copies, mais ça Franck pourra peut-être en parler, jusqu'à très récemment, il était très difficile de voir ces films à part en rétrospective. Et donc on est parti de ce paradoxe qui existe depuis en fait le début de sa carrière.
Pour le généraliser peut-être en des termes plus... Pour généraliser peut-être sa carrière, Frederick Wiseman est né en 1930, donc c'est un vieux monsieur aujourd'hui, mais qui est toujours très actif. Hein, il tourne des films tous les deux ans depuis 50 ans. Il a commencé à tourner sorti son premier film en 1967 et son prochain film doit sortir...
L'année prochaine
sans doute. En tout cas, il est en train de monter son dernier film à l'heure actuelle. Alors, c'est un monsieur qui n'est pas venu au cinéma immédiatement. Il est avocat de formation. Hein. Il avait fait des études de droit. Son père était avocat, donc il vient d'une lignée d'avocats. Il est immigré russe. Et en fait... dans sa pratique d'enseignant en droit, puisque finalement il a sorti d'Harvard, il est devenu enseignant en droit à Harvard, il a eu à cœur de faire découvrir à ses étudiants l'envers du décor de la justice et eu à cœur de faire découvrir à ses étudiants où pouvaient être menés ceux des individus qui allaient être condamnés par la justice. Et donc il avait pris pour habitude d'amener ses étudiants dans la prison de Bridgewater dans le Massachusetts, qui est une prison psychiatrique où une grande partie des condamnés étaient amenés. Et à visiter cette prison et à voir les conditions de détention des prisonniers, il a... eu l'idée, il lui est venu l'idée de faire un film sur cette prison. Alors qu'il avait déjà un peu tâté du cinéma quelques années avant, puisqu'il avait produit un film de Shirley Clarke en 1963 qui s'appelle Cool World, qui est une autre documentariste américaine d'une renommée un peu moindre sans doute que celle de Wiseman. Et donc en 1967, Wiseman tourne un film dans cette prison, Titicut Follies, qui sera son premier film. Premier coup d'essai et premier obstacle peut-être, puisque le film, au vu de la réalité qu'il dévoile, le film a été censuré aux États-Unis assez rapidement. Il a été interdit de projection publique pendant, je crois, près d'une trentaine d'années. L'interdiction a été levée aujourd'hui. Alors le film pouvait être diffusé, mais dans certaines... conditions très, très précises, très particulières, dans un cadre scolaire, après avoir demandé des autorisations. Les conditions de diffusion étaient très compliquées. Mais voilà comment Wiseman en est venu au cinéma. Et cette première institution dont il a fait l'objet de son premier film, la prison psychiatrique de Bridgewater, ça est devenu finalement il y a développé une méthode, en fin de compte. C'est-à-dire que Fred Wiseman tourne dans des lieux clos la plupart du temps, identifiés comme des institutions, des grandes institutions américaines. Il y tourne pendant 2 mois en général, et des nombreux rushs qu'il filme pendant les 2 mois de tournage durant lesquels il reste là-bas, il passe à peu près un an à monter son film, un an à trouver une organisation dramatique, séquentiel au plan qu'il a tourné. Et film après film, il va aller interroger 2 nouvelles institutions. Donc après avoir filmé la prison psychiatrique de Bridgewater, il va tourner un film dans un lycée, ce sera le High School. Un peu plus tard, il tourne dans un hôpital, c'est le film Hospital qu'on va voir ce soir. Et puis il va interroger comme ça, l'une après l'autre, toutes les grandes institutions américaines, institutions militaires, institutions médicales, institutions judiciaires, institutions scolaires, etc.
Parce que justement, c'est quelque part le me semble-t-il, le cœur du sujet. En tout cas, pour moi, dans le cadre de la rétrospective, c'était aussi de casser un petit peu les clichés, c'est-à-dire cette fameuse frontière entre documentaire et fiction, puisqu'on parle de documentariste, ou pour être plus juste plutôt par rapport à fiction, de film narratif, comme on l'évoquait tout à l'heure à propos de Boxing Gym. Et donc du coup, ma question, c'est, on parle toujours, souvent, des institutions, mais est-ce vraiment des films sur des institutions ou est-ce des films qui se servent d'institutions comme un lieu, comme d'un décor pour chercher autre chose? Et là, du coup, je m'adresse bien aux deux parce que, je veux dire, le spécialiste cinéma et civilisation américaine, parce que c'est des institutions, c'est aussi la culture, donc la société. Voilà, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il y a l'un qui prendrait le pas sur l'autre, ou comment les deux pourraient s'agencer, comment on peut naviguer là-dedans?
Alors, Frederick Wiseman se défend de toute l'approche sociologique. C'est vraiment le terme qu'il honnit le plus. Ce qu'il a dit, en fait, dans ses premiers entretiens après Chitticott Follies et pendant High School et juste après, ce qu'il souhaitait faire, c'était mettre les institutions américaines, qu'il définit de manière très très vague, Vincent en a parlé tout à l'heure, comme des lieux clos où certaines personnes ont des fonctions déterminées. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout une définition sociologique. Il n'a pas lu les grands sociologues américain ou français d'ailleurs. Et ce qui l'intéresse, c'était de mettre l'institution au centre du film et de faire de l'institution la star du film. Donc il pense vraiment sa pratique cinématographique en termes purement filmiques. Ce qui l'intéresse, c'est pas forcément d'avoir un point de vue déterminé, de pointer du doigt des problèmes sociologiques ou sociaux ou sociétaux. C'est vraiment de donner à voir à une majorité de personnes, même si effectivement c'est tout le problème de l'accès à ces films, ce que lui a vécu et ressenti pendant le tournage. Et il a un peu de mal avec le terme de il n'emploie pas tellement le terme de documentaire, c'est plutôt des fictions, enfin pas des fictions, mais de la réalité narrativisée. Donc voilà, tout se fait pour lui au niveau du montage. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, mais on peut le répéter, c'est-à-dire que ces films donnent l'impression d'une sorte de chronologie avec un début, un développement et une fin, mais en fait quand on lit ces entretiens ou quand on compare avec ce qui a réellement été tourné, ils bouleversent complètement la chronologie du tournage. Donc ce qui l'intéresse vraiment, c'est à partir du matériau filmique qu'il a obtenu, à partir de ses impressions, à partir de ses rencontres, d'organiser de manière dramatique, donc de manière narrative d'une certaine manière, un portrait d'un groupe de gens, un portrait d'une institution. Donc c'est ça qui l'intéresse. Il parle pas du tout en termes sociologiques, en termes sociaux, il parle vraiment en termes filmiques, c'est-à-dire de partir d'un matériel qu'il a découvert un peu par hasard. On a parlé de sa méthode tout à l'heure. Il refuse de venir dans les institutions, dans les lieux qu'il va filmer longtemps en avance. Il est persuadé que s'il vient longtemps en avance et qu'il essaye de créer une relation de proximité avec les sujets filmiques qu'il va enregistrer, il est persuadé qu'il va se passer quelque chose de fondamental qu'il ne pourra pas filmer parce qu'il serait justement dans cette phase de découverte et dans cette phase de découverte des lieux. Donc il filme très 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 tôt et il vient sans idée préconçue, et c'est ça qu'il reproche à la sociologie, c'est ça qu'il reproche à toutes les approches en fait des sciences sociales, c'est-à-dire d'avoir un cadre surdéterminé avant la rencontre avec le lieu et avec les gens.
Oui, et de même pour certains cinéastes tels que Michael Moore, par exemple, à qui il le reproche, qui est complètement à l'antithèse, parce qu'on a ce qu'on a. Bon, j'imagine que vous avez déjà vu les films un petit peu, donc vous connaissez un peu le système Wiseman. Mais ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de d'interview, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off. C'est vraiment, il capte des choses, des fragments, et à partir de ces fragments, en fait, il va harmoniser et créer une sorte de plus gros fragment finalement d'une réalité. Ce qui est, voilà. Et donc il arrive sans idée préconçue. Thanasis qui précisait tout à l'heure, justement, le film, le scénario s'écrit au montage. Donc il n'y a pas d'idée préconçue. On est vraiment dans la découverte.
Oui, c'est ça. C'est une reconstruction en mosaïque de la réalité telle que lui en a fait l'expérience. Donc. Comme c'est toi qui le disais tout à l'heure, la chronologie du tournage importe peu une fois que Wiseman est sur sa table de montage. C'est-à-dire que l'agencement des plans vise à une reconstruction rythmique plus qu'à respecter exactement la réalité telle qu'elle a été. La retranscription d'une expérience du vécu par le montage, elle passe par une trahison en quelque sorte de ce qu'a été le véritable déroulé des faits. C'est pas tellement ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de recomposer quelque chose qui, par le biais d'un assemblement, d'un nouvel ordonnancement des images et des sons, puisse être suffisamment fidèle à l'expérience du novice à la rencontre d'un lieu tel que lui l'avait vécu. Ce qu'il essaye de faire, en fin de compte, c'est de nous amener, nous, à la rencontre d'un lieu qu'on croirait connaître, mais dont on découvrirait le nouveau fonctionnement ou le réel fonctionnement depuis les coulisses.
Est-ce qu'on peut quand même parler de si lui récuse le terme, si c'est pas quelque chose qu'il recherche, de l'ordre de la sociologie? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on retrouve? Parce que, par exemple, High School, il y a deux films avec vraiment deux décennies d'écart, donc c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a comme une sorte de portrait des institutions ou une évolution qu'on pourrait sentir tout au fil de son œuvre, aussi avec ce côté fragmentaire, c'est-à-dire d'un regard, même s'il refuse cette appellation, mais dans lequel on pourrait saisir une évolution sociologique de la culture américaine, par exemple.
Alors, ce que lui dit, c'est que si des sociologues ou des spécialistes sociaux retrouvent des éléments de théorie sur lesquels ils auraient réfléchi dans ces films, il est très content, mais c'est pas ça qu'il cherche à faire. Il me semble qu'en fait une ambiguïté aussi, peut-être celle des titres de ces films, qui sont relativement abstraits. High School, c'est lycée, sans précision de quel lycée. Or, quand on voit le premier et quand on voit le deuxième aussi, ce sont deux lycées vraiment extrêmement particuliers. Mais dans ces titres relativement métonymiques, on peut avoir cette impression qu'il cherche à avoir un discours beaucoup plus globalisant sur ce qu'est le système d'éducation américain. De toute façon, ce qu'il cherche à faire, c'est de partir d'un lieu très précis, surdéterminé, clos, et essayer de voir comment ce lieu peut donner à voir ce qui se passe au-delà. C'est-à-dire que voilà, il va se questionner sur un lieu en particulier, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est de voir comment le fonctionnement institutionnel, la hiérarchie particulière qui existe dans ce lieu-là, peut donner à voir, à comprendre ce qui se passe également ailleurs. Donc une évolution, oui, mais l'évolution est perceptible dans le choix particulier des lycées. Patricia en a parlé ce matin, une bonne communication. Le lycée de 68, c'est un lycée principalement blanc, dans une grande ville de Philadelphie, en banlieue, où il y a une structure hiérarchique vraiment très 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 mise en avant par l'école elle-même et par le montage. Alors que dans l'école, dans le lycée qu'il a filmé quelques décennies plus tard, La pédagogie est différente, c'est un lieu beaucoup plus ouvert sur, sur l'extérieur. Donc, est-ce que c'est une évolution de son choix de lieu précis ou est-ce que c'est vraiment une évolution de la société américaine dans son ensemble? Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a vraiment une ambiguïté à ce niveau-là. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse en tout cas.
C'est ça, l'évolution de Wiseman tout au long de ses 50 ans de carrière, elle pose une question, c'est est-ce que l'évolution ou les changements, certes très mineurs de son style, parce que sa méthode reste la même depuis 50 ans, mais malgré tout, dans le détail, on constate que sur le plan stylistique, c'est-à-dire sur le plan de la stylistique des images, la question de la, si on interroge la question de la composition du cadre, qui était beaucoup plus picturale au début de la carrière de Wiseman, où il cherchait vraiment à travailler à la géométrie des lignes, il travaillait à une certaine abstraction plastique, il travaillait la question du rythme en pensant cette, l'évolution des plans, les raccords entre les plans sur le plan formel. Cette question un peu formaliste, alors évidemment, chez Wiseman, parler de formalisme, c'est un peu gros peut-être, mais admettons, ce mini-formalisme qui caractérisait Wiseman au début de sa carrière, on se rend compte qu'au fur et à mesure des films, il s'estompe, on va vers une caméra de plus en plus discrète. La forme qui exposait ses attributs, le style qui s'exposait quand même un petit peu dans les premiers films s'estompe progressivement. Mais est-ce que lorsqu'il filme High School, donc en 1968, il en donne une image relativement anxiogène, par le biais notamment de ses choix de cadre, par le biais de certains choix de cadre, de coupures de cadre assez agressives par exemple? Quand il filme le deuxième High School, 20 et quelques années plus tard, son style a totalement changé. Est-ce que le regard que pose Wiseman sur la société a changé ou est-ce qu'on doit considérer tout simplement que c'est son rapport au médium qui a changé? C'est ça, je pense, c'est l'une des ambiguïtés, je pense, qui caractérise Wiseman. Est-ce que son style change parce qu'il envisage le cinéma autrement ou est-ce que son style change parce que il cherche à poser un nouveau regard sur une société qu'il regarde avec des yeux nouveaux?
Ben, alors ça justement, c'est parce que c'est une question à laquelle je voulais venir, mais donc attaquons-la tout de suite. C'était justement tout à l'heure, on parlait par rapport à Wiseman de la mise en scène de soi. Il y a deux volets, on va dire, possibles de la mise en scène de soi. Un, c'est les personnes qui sont filmées. Donc, parce qu'il y a une caméra, y a-t-il une façon de, enfin, on se met en scène, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait soi-même. Ça peut être ce qu'il recherche. On parlait justement, il y a des masques, et donc il cherche ce qu'il y aurait derrière les masques, en continuant à faire des rushs. C'est-à-dire que même quand bien même il voudrait être le plus invisible possible, la caméra, elle est toujours présente, et donc on se comporte pas de la même façon qu'il y a une caméra ou pas. Et donc on prend un masque, et donc c'est de chercher, voilà. Donc je l'ai compris et je l'ai ressenti comme ça. Il y a ce premier rapport donc d'une mise en scène de soi, de celui qui est devant la caméra. Et finalement, à partir de là, je me suis posé une autre question. Je me disais, mais est-ce que c'est pas la mise en scène de soi de Wiseman lui-même, finalement, quoi, dans toute cette évolution? C'est-à-dire que Wiseman est pas présent, il cherche toujours à s'effacer, et en même temps, il est extrêmement présent dans son écriture, c'est-à-dire dans le montage, dans les choix de montage, qui sont, on pourrait parler d'une certaine neutralité, alors qu'en fait non, c'est extrêmement subjectif, et il y a une façon de se mettre en avant. Et dans les premiers films, effectivement, dans le choix des cadres, mais dans les choix aussi des raccords, ce qu'on disait ce matin, il y avait sur aussi les choix des raccords et autres, il y a une façon de dire regardez-moi ou regardez bien, en fait ce qui paraît être complètement neutre, non, c'est ma pensée qui est derrière. Et puis ça va, et plus elle s'estompe. Disons que ces marques de visibles d'écriture s'estompent. Mais peut-être parce que aujourd'hui il a moins besoin de s'affirmer. Je pensais à Ford, John Ford qui racontait au tout début de sa carrière, qui racontait quand il était invité, comment il est arrivé à Hollywood. C'était une épopée. C'est-à-dire qu'il est parti avec un ami, ils ont pris le train, et puis à un moment donné, ils n'avaient plus d'argent, donc ils avaient dû sauter dans un train. Et puis son ami, en fait, s'est cassé la gueule, il s'est cassé la jambe. Alors du coup, ils ont été retenus. Bref, c'est comme si ça avait pris 6 mois pour aller jusqu'en Californie. Et à la fin de sa vie, quand on lui posait la question « Comment vous êtes arrivé à Hollywood ?», il disait « En train. » Point. Il n'avait plus besoin de raconter, de se mettre en scène quelque part. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait de ça, ou est-ce que c'est complètement déplacé par rapport à Wiseman, et justement dans cette évolution du style, est-ce qu'on va vraiment aller pur pour chercher des choses autrement? Je sais pas. Et en même temps, parce que ça recoupe aussi ce que vous êtes analysé sur par rapport à Boxing Gym, où c'était mis, enfin il y avait toute la question justement de la narration et des rapports avec le cinéma classique, enfin avec les films narratifs classiques. Donc peut-être même après, si vous voulez bien peut-être nous en reparler brièvement pour ceux qui étaient pas là, peut-être pour replacer. Mais c'est à dire que du coup on part vraiment de quelque chose qui était complètement éclaté, et finalement ce qui paraît éclaté mais qui est dans une structure extrêmement pensé, et dans laquelle finalement on retrouve tous les codes des codes du cinéma fiction. Comment on peut se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une position à avoir?
Alors les purs de son cinéma, sans doute elle est relative, mais avoir ses films apparaît assez évidente. Comme tu le dis, tous ses films sont extrêmement construits du premier jusqu'au dernier. Mais effectivement, le style était peut-être un peu plus marqué dans les premiers films, et en fait très vite Wiseman va comprendre, ou en tout cas chercher à s'effacer derrière le dispositif. C'est-à-dire que dans Titty Cut Follies, pour ceux qui l'ont vu, il est passé il y a 15 jours à la Cinémathèque, il y a une scène vers la fin du film dont tout le monde se souviendra si vous l'avez vu. Il y a un monsieur qui est handicapé et qui est allongé sur le dos, et on le nourrit, les gardiens de la prison le nourrissent en lui plantant une sonde dans les narines. Et Wiseman, au montage, alterne les plans entre ce type qui se fait nourrir par le nez et le même quelques semaines plus tard, mort, allongé sur la table du médecin légiste, qui est en train de procéder au dernier lavement avant la crémation. Et ça marche en montage parallèle, c'est-à-dire qu'on passe du temps où il est allongé sur le dos, il se fait nourrir, au moment où il est mort, et puis on alterne en fait entre deux temporalités. Et on a là un montage qu'on dira didactique, hein, c'est-à-dire que Wiseman, de façon un peu appuyée, essaye de mettre en parallèle la façon dont le corps vivant était traité et la façon dont son cadavre sera traité quelques semaines plus tard, en montrant que il était traité un peu de la même façon vivant que mort. Et ce montage didactique qui marque vraiment qui a la marque d'une personnalité, d'une identité, d'un auteur qui cherche une méthode rhétorique par le montage à exprimer une idée, très vite Wiseman comprendra que ce n'est pas là la bonne méthode. Et cette dimension didactique, il va immédiatement la rejeter, et on ne retrouvera plus après dans son cinéma quelque chose d'aussi appuyé. Et très vite, il va se retirer derrière une représentation pseudo-objective de ce qu'il filme. Mais effectivement, on se rend quand même compte que on n'est jamais dans de l'objectivité chez Wiseman. De toute façon, on n'est jamais dans l'objectivité au cinéma, c'est évident. Mais la méthode Wiseman, telle qu'il va l'instituer, la perfectionner de film en film, c'est une réinvention séquentielle de la réalité. Et même s'il cherche à éviter tout effet didactique beaucoup trop appuyé, malgré tout, ce plaisir de filmer, ce plaisir de recomposer la réalité, ce plaisir de la durée, soit très longue, soit très courte, elle est quand même la marque d'une identité, elle est quand même la marque d'un style. Je ne suis pas sûr qu'on puisse absolument dire qu'il y aurait là, de la part de Wiseman, une volonté de se mettre en scène, une volonté de se mettre en avant. Mais quelque part, sa griffe de cinéaste, elle est reconnaissable. C'est-à-dire que très vite dans sa carrière, il a été identifié par son style, plus que par le contenu des films. Et très vite, on a dit de Wiseman que c'était un cinéaste unique et que quiconque voudrait faire du cinéma comme lui n'arriverait jamais à l'égaler. Donc il a une marque stylistique, malgré le fait qu'il essaye de se mettre en retrait. Peut-être que l'une de ses marques stylistiques principales, c'est justement cette présence en creux qu'on perçoit film après film. Après, sur la mise en scène, ou en tout cas la mise en avant du personnage, je pense que ce qui est le plus prégnant chez Wiseman, c'est que c'est un des cinéastes, pour un cinéaste qui ne parle jamais dans ses films, il n'y a jamais de voix off, il n'intervient jamais, il ne parle jamais aux individus qu'il filme. Pour autant, c'est sans doute un des cinéastes les plus bavards sur son œuvre, en dehors du tournage. C'est un cinéaste qui a été interviewé de multiples fois, il a failli être interviewé ce soir, s'il était venu. Il a été interviewé des multiples fois depuis 50 ans. Il y a pléthore d'interviews de lui dans les cahiers du cinéma. Il y a des ouvrages entiers dédiés à des interviews de Wiseman. C'est un cinéaste qui a beaucoup parlé sur son œuvre. En quelque sorte, l'une des paroles qui fait le plus autorité sur l'œuvre de Wiseman, c'est la parole de Wiseman lui-même. Donc il y a une certaine quand même conscience de la façon dont son cinéma doit être perçu, des codes avec lesquels on doit les percevoir, et il a une parole qui est en fait assez répétitive, c'est-à-dire que depuis 50 ans, il dit un peu beaucoup la même chose.
Pour revenir à la première partie de la question, ça fait lien aussi par rapport à la mise en scène, ou la présentation de soi des sujets du film, et la question de l'objectivité, de la subjectivité. Donc voilà, Wiseman, dès le départ, dit que la question de l'objectivité n'a pas lieu d'être, notamment dans le cinéma en général et le cinéma documentaire en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient après le début des années 60, où il y a le débat fondamental entre les tenants du cinéma direct et les tenants du cinéma vérité. Ceux du cinéma direct pensaient... qu'après un temps d'apprivoisement, après un temps de séduction de la part de l'équipe technique par rapport au sujet, ces sujets-là oublieraient la présence de la caméra et oublieraient réellement la présence de la caméra et donc agiraient, ça c'est la théorie évidemment, ça n'a jamais marché, oublieraient la présence de la caméra et agiraient comme si elle n'était pas présente. Donc ça, c'était tous les tenants de l'école américaine, de Robert Drew, alors que ceux du cinéma vérité, Rouge notamment, mais aussi d'autres, disaient, mais non, c'est complètement ridicule, avec les mêmes outils techniques, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'affirmer la présence de la caméra et d'enregistrer ce qui se passe quand il y a une caméra présente, justement. Et j'ai l'impression que Wiseman dépasse un peu ce débat-là, qui a été un débat théorique très intense en 62, il me semble, à Lyon, où les cinéastes se sont vraiment attaqués les uns les autres par rapport à leur théorie plus que par leur pratique réelle. Et Wiseman estime dès le départ que toute la théorie des tenants du cinéma direct, même s'il en a certains des codes stylistiques, c'est-à-dire aucune intervention, l'observation soi-disant la plus pure, pas d'entretien, pas de voix off, même si on a les codes les plus purs, il n'est pas du tout d'accord avec les principes théoriques de base, c'est-à-dire qu'on peut oublier consciemment, peut-être pas consciemment, mais on peut oublier la présence de la caméra. Est-ce que ça marchait en 60 quand cette petite caméra portative était complètement nouvelle? Et est-ce que ça a marché à aucun moment? Enfin, c'est vraiment ça la question. Et donc, il dépasse dans sa pratique cette question-là. Il est tout à fait conscient que ces sujets voient la caméra. Il est présent dans la salle. Il est très conscient que ces sujets ne peuvent pas oublier la présence. Et ce qui l'intéresse, c'est de voir... ce qu'il advient, puisque ces sujets-là vont jouer d'eux-mêmes, en fait. Que ça devienne de la fiction, que ça devienne de la mise en scène de soi, finalement, importe peu, parce que c'est quand même quelque chose qui advient dans des situations, la plupart du temps, relativement tendues et douloureuses, où donc ces sujets-là, ou ces acteurs sociaux, comme dirait Bill Nichols, ne peuvent pas vraiment jouer, enfin, interprètent quelque chose, mais comme ils interpréteraient quelque chose dans leur vie sociale de tous les jours, peut-être sans caméra. Mais donc, du coup, il essaye un peu de dépasser ce sujet-là, objectivité, subjectivité, conscience ou pas de la caméra, pour essayer de voir justement ce qui se passe chez des sujets, dans des états parfois de stress ou de malaise, comment ils se mettent en scène eux-mêmes. Mais il ne prend pas ça comme un mensonge ou une manipulation.
Est-ce qu'on peut dire, du coup, que, par exemple, que Wiseman est quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons qui malmène le réel. Je veux dire, dans le sens qui malmène la représentation que l'on peut se faire du réel, voire même plus, après en tant que spectateur, la représentation que l'on pourrait se faire du réel tel qu'on peut l'attendre d'un documentaire. Tu vois ce que je veux dire là, à deux niveaux. Est-ce que finalement Wiseman, sa force, elle n'est pas tant justement dans cette confrontation au réel et justement dans cette position qui dit toujours ce n'est pas la vérité que je filme, mais c'est une vérité, un fragment, c'est pas la réalité, mais un fragment de réel et c'est une représentation que je vais vous en donner, hein. Mais en même temps que je vous donne cette représentation de ce fragment de réel, je malmène aussi l'idée reçue qu'on peut avoir de la représentation du réel qu'on peut se faire ou qu'on peut attendre du documentaire, tel que les idées reçues qu'on peut en avoir. Je ne sais pas si je suis très clair.
Il me semble quand même que les idées reçues de ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut attendre d'un documentaire, ont énormément évolué. Je crois que le point vraiment central, c'est les années 60. Jusqu'aux années 60, l'idée reçue du documentaire, c'est une voix off qui commente des images qui n'ont aucun rapport indiciel avec la réalité, qui viennent soit de films de fiction, soit qui sont tournés spécifiquement pour ce film-là, mais qui ont simplement une valeur illustrative de ce que la voix off, est en train d'énoncer. À partir des années 60, justement, j'ai évoqué ça tout à l'heure, une nouvelle tendance cinématographique, une nouvelle tendance documentaire est apparue, enfin deux tendances d'ailleurs, qui ont complètement transformé les attentes de tous les spectateurs par rapport à ce que doit être un documentaire. Donc avec cette idée qu'un documentaire se doit de remplir certaines cases, c'est-à-dire pas de manipulation du réel, une certaine neutralité bienveillante en essayant de donner les tenants et les aboutissants d'un débat ou les pour et les contre. Une fois de plus, je pense que vraiment, Wiseman va un peu au-delà de ça. Il propose vraiment une nouvelle manière d'appréhender le cinéma, le documentaire, mais le cinéma aussi en général. Et donc, oui, il m'amène réel en reconstruisant complètement la chronologie des événements réels. Mais pour lui, enfin, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Pour lui, ça ne crée pas de problème moral ou de problème éthique. Contrairement à d'autres cinéastes qui sont très critiqués parce qu'ils manipulent un peu, de manière relativement explicite et ouverte, le réel, en changeant complètement l'ordre des événements. Et du coup, ça a un impact sur la perception par le spectateur. Pour Wiseman, ce n'est pas vraiment un problème, dans la mesure où ce qu'il essaye de faire, c'est de garder une sorte d'authenticité par rapport à ce que lui, personnellement, a vécu. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, à aucun moment il ne prétend avoir le dernier mot. Il dit, c'est une proposition, c'est ma proposition, à un moment donné, de ce que moi j'ai vécu dans un endroit déterminé. Donc, pas de prétention. Effectivement, en termes de style, on peut avoir l'impression de temps en temps qu'il s'efface et qu'il y a une neutralité, mais il est tout à fait conscient, et je pense que ses films le montrent bien, que c'est sa vision des choses, à partir d'un réel réorganisé. Voilà.
Il pense en cinéaste, hein, il ne pense pas en sociologue, il ne pense pas en idéologue, il cherche pas à faire œuvre de dogmatisme. Et les idées reçues dont tu parlais, je pense que quelque part le cinéma de Wiseman sans doute en a souffert. Puis il aide pas non plus à ce que ça s'efface, cette idée. C'est-à-dire que c'est des films de 3 heures en moyenne, parfois 4 heures. Sans connaître le cinéma de Wiseman, sans l'avoir fréquenté, sans avoir fait l'effort d'aller vers lui, on s'imaginerait sans doute qu'un film de 4 heures sur l'université de Berkeley, on va avoir des scènes un peu rébarbatives, un peu assommantes. Et en fin de compte, la première surprise peut-être pour un spectateur un peu néophyte du cinéma de Wiseman, c'est de se rendre compte que, en fait, Wiseman pense en cinéaste, il pense en artiste, et quand bien même son style s'efface un petit peu, donne pas vraiment de nourriture pour le regard, il cherche pas à séduire véritablement le regard de prime abord, malgré tout, ce qu'il pratique, c'est véritablement une recomposition par le montage du réel, encore une fois. Donc c'est quelqu'un qui pense en cinéaste. Son rapport à la réalité, il le pense en cinéaste. Effectivement, il est totalement loin des débats qui ont agité la critique du cinéma dans les années 50, où le documentaire se devait de représenter la réalité le plus fidèlement possible, sans intervention et sans trucage, etc. C'est effectivement une question qui intéresse absolument pas la question de la moralité du réel, du rapport au réel, quelque chose qui n'intéresse absolument pas Wiseman. Mais il faut faire l'effort, évidemment, d'aller à la rencontre de ces films pour se rendre compte à quel point on a des œuvres qui sont proprement cinématographiques. Et quel que soit le contenu, quel que soit le sujet, finalement, qui est mis en scène dans ces films-là, ce qui l'intéresse, lui, véritablement, c'est d'utiliser le cinéma comme un langage, comme un outil expressif. Je pense que c'est ça, principalement, son credo.
Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? N'hésitez pas.
Oui, Jacques.
Est-ce que l'on sait, comme vous avez parlé de son accès dans les lieux immédiats, est-ce que l'on sait s'il a écrit des conducteurs ou bien des scénarios avant de rentrer dans les lieux?
Non.
Ou pas du tout?
Non, tout s'écrit au montage. Non, il arrive en général en terrain quasi inconnu, hein, comme le disait Zachary tout à l'heure. Il a fait quelques micro-repérages 2 ou 3 jours avant, mais il se contente de capter la réalité telle qu'elle va, d'être le plus attentif possible aux événements qui pourraient surgir dans le champ de la caméra, mais il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas d'idée reçue, il n'y a pas une idée de structure dramatique, même un peu floue, qui précéderait au tournage. Tout s'invente réellement au montage.
Donc du coup, il a des heures et des heures et des heures de rush, et il passe, c'est pour ça qu'il passe beaucoup plus de temps en montage qu'en tournage. Il a, je me souviens plus exactement du ratio, mais c'est un ratio à peu près incroyable. Il doit y avoir 1%, enfin peut-être pas 1%, mais 1 sur 30 des éléments, des rushs qui sont effectivement mis dans le film au final. La seule chose qu'il fasse avant de tourner, c'est d'avoir les autorisations du chef des institutions. Mais son principe de base, en termes éthiques, de rapport avec les sujets qu'il filme, c'est que s'il filme dans un lieu public, il n'a pas à demander l'autorisation des personnes qui sont devant la caméra.
Mais c'est vrai que pour des films qui sont aussi longs, il faut essayer de se dire qu'en fin de compte, l'objet filmique tel qu'il a été sculpté par le cinéaste est en fait d'une épure totale, c'est-à-dire qu'il a dû tailler dans une matière filmique énorme, et même si les films nous paraissent longs ou invraisemblablement longs, malgré tout on a un objet qui est le plus épuré, le plus poli possible pour former un objet filmique unique. Et quelque part il faut se dire que Wiseman fait des films de 4 heures à partir de 200 heures de rush, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc finalement, c'est très court, en fait. Il arrive à polir une matière filmique très très court à partir d'une matière filmée très très longue.
C'est vraiment ça, sculpture. Hein. Parce que c'est vraiment, il sculpte. Quand il travaille, enfin, le montage, en fait, il travaille par bloc. Donc il y aura les rushs et il travaille par bloc. Et donc il va monter des blocs, chercher des séquences qui fonctionnent, puisqu'il travaille aussi beaucoup sur la question du rythme. Et ensuite, il va retravailler pour monter, pour que ces blocs fonctionnent pour les argumenter les uns aux autres, pour les raccorder. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre, hein, véritablement.
Le montage, il est avant tout pensé en termes de rythme plutôt qu'en termes de contenu du sujet filmé. C'est-à-dire qu'il travaille les moments de longueur, les moments d'acmé dramatique, les moments de pause, de stase, éventuellement de parenthèse poétique. Et il y a effectivement toute une schématisation rythmique qui lui permet d'organiser son montage. Et c'est vraiment sur cette construction-là, en fait, qu'il envisage le montage de ses films.
Oui, oui, pour le montage, c'est à peu près clair pour moi. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des détails techniques sur le tournage. Est-ce que ça a évolué ? Il y a un preneur de son, un caméraman. Est-ce qu'il est lui-même un des deux ? Etc, etc. Soyez précis le plus possible, s'il vous plaît.
On l'est pas ? Faudrait qu'on l'ait pas ?
Son équipe est vraiment extrêmement réduite. La plupart du temps, c'est 3 personnes. C'est-à-dire lui au son. C'est lui qui tient le son, sauf à quelques exceptions près. C'est lui qui tenait la caméra, mais dès le départ, c'est lui qui tenait la perche. Il y a un caméraman dont il a changé plusieurs fois. Si vous avez vu certains de ses premiers films, des cadrages très serrés dont on a parlé plusieurs fois, et donc qui ne convenaient pas forcément à ce que Wiseman avait envie de faire. Et donc du coup, il est très très fidèle à son, j'ai oublié son nom évidemment, à son nouveau caméraman, avec lequel il a réussi à créer une sorte de langage très très minimal des doigts en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça ».
Oui, c'est ce que disait Zachary. Par des signes, un langage gestuel très, très fin et très élaboré, il arrive à lui indiquer où mettre la caméra. Et puis, puisque Wiseman, en tenant la perche, en bougeant la perche, il indique où doit aller la caméra.
Ça c'est quelque chose dont on n'a pas trop... peut-être que vous en avez parlé au moment où j'étais absent, mais justement la question du son, parce que finalement c'est le son qui dirige, parce que lui il est au son, quoi. Il est pas derrière la caméra, contrairement à Depardon, par exemple, quoi. Et donc il est donc en fait c'est le son, il capte et effectivement, et c'est la perche qui va mener la caméra. Ça c'est quelque chose qui, je crois qu'il y a une autre question, non, et du coup peut-être on pourra revenir après sur le son, parce qu'on en a parlé un petit peu cet après-midi, mais peut-être d'y revenir.
Alors il y a quelque chose qui est intéressant sur le son, c'est le travail de la musique, qui est assez peu employé chez Wiseman, mais on se rend compte, alors peut-être plus dans les premiers films que dans les films suivants. On a plusieurs fois vu ce matin cette séquence de High School dans laquelle une enseignante passe à ses élèves un morceau de Simon & Garfunkel dans un cours de poésie, pour illustrer un cours de poésie. L'exemple qu'elle trouve, c'est une chanson de Simon & Garfunkel, donc elle leur fait écouter cette chanson. Et là, tout d'un coup, la narration, la pseudo-narration s'interrompt, et puis on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre du poétique. La caméra filme en gros plan les bobines de la cassette qui est en train de passer l'air de Simon & Garfunkel. Et on se rend compte que la musique que le spectateur entend, c'est pas du tout ce qu'on appelle en des termes techniques un son in, c'est-à-dire que la musique telle que l'entend le spectateur, elle passe pas par le micro, en fait. C'est-à-dire que on comprend, puisque les plans s'enchaînent, on enchaîne avec des gros plans de visage, les gros plans de visage des élèves dans la salle, on comprend qu'en fait, il a procédé à un montage, forcément, et que la musique, il est allé la chercher, et qu'il a collé la bande musicale sur le montage, et que la qualité sonore de la musique telle qu'on l'entend, elle ne correspond pas du tout au son de la musique enregistrée par le micro. Donc il fait quelque chose comme un montage clip, en quelque sorte, qui souscrit un peu à une certaine mode. On est en 68, on est un an après le Loret de Mike Nichols, qui commençait déjà à utiliser Simon & Garfunkel pour illustrer les tourments, les atermoiements de la vie adolescente. Donc on a parfois, chez Wiseman, une utilisation de la musique pour s'inscrire dans un registre qui l'écarterait peut-être de celui du documentaire un peu objectif et qui rentrerait dans des régimes, qui le ferait rentrer dans des régimes d'images contemporains. Quelque part, on a quand même un cinéaste qui sait dialoguer avec l'actualité des images. Et c'est, je pense, quelque chose qui était peut-être beaucoup plus frappant dans les premiers films que dans les derniers. Mais on voyait aussi ça chez Skolimowski, dont il y avait la rétro le mois dernier, qui utilisait des airs de Cat Stevens au début de Deep End. Et c'est un peu dans cette démarche-là qu'il souscrit, même si le temps d'une parenthèse, Wiseman.
Mais pour revenir à High School aussi, la scène d'ouverture, on en a parlé aussi un peu plus tôt aujourd'hui, c'est un travelling avant, en voiture, vers l'école, où il y a une musique dont le statut reste...
Otis Redding,
Dark of the Bay, dont le statut reste vraiment, vraiment ambigu. Est-ce que c'est la musique complètement off? Est-ce que c'est la musique qui passerait à la radio à ce moment-là? Il n'y a pas vraiment de justification dans le cas de la chanson de Simon Garfunkel. C'est quand même la chanson que les élèves ont écoutée à ce moment-là. Elle est décrite, la prof la lit d'abord les paroles, puis la passe. Donc, disons que cette musique-là, qui est off, effectivement, est quand même un peu justifiée par une sorte de diégèse. Là, en fait, pour comprendre à quoi sert cette chanson de Otis Redding, un lien se crée. Alors, c'est un lien basé sur les impressions du spectateur, ce qu'on peut comprendre éventuellement des paroles de la chanson, ou une sorte de contraste entre la musique qui peut sembler être relativement joyeuse et les images assez délabrées de l'école qui est filmée comme une usine. Mais bon, voilà, une fois de plus, quand on lit ce que Wiseman dit, il justifie réellement le choix de cette chanson. Il explique que c'est ce qui passait à la radio chaque matin quand il est tourné dans cette... Peut-être pas chaque matin, mais plusieurs matins, il a entendu la même chanson à la radio. Du coup, il a commencé à chercher un peu ce que voulaient dire les paroles. Et il s'est aperçu que la chanson d'Otis Redding parlait de la déception entre les attentes du rêve américain et la réalité. Et donc, il a trouvé que ça pourrait être un parfait moyen d'entrer dans le film. Et finalement, et ce qu'il voulait, même s'il ne parle pas en ces termes-là, de ce qu'il voulait essayer de suggérer par rapport au système éducatif américain ou cette école-là en particulier. Donc c'est une utilisation de la musique assez intéressante aussi, qui est à la fois justifiée par son expérience individuelle sur les lieux de tournage, et à laquelle il donne aussi une vision, enfin une fonction, pas forcément didactique, mais une fonction symbolique.
Et là en l'occurrence, quoi, parce que il y a la musique, puis il y a les travelling. Et c'est l'ouverture du film, et je trouve que c'est difficile de pas penser à Jim Jarmusch, par exemple, quoi. Et du coup, c'est une question, enfin la question qui est toujours là et qui sur le entre fiction documentaire et où Wiseman est vraiment, enfin il est vraiment je sais pas, il casse les schémas, où il est une sorte de passerelle, et quelque part, enfin il a une influence, je veux dire, lui, son rapport au réel, il et la façon dont il le refabrique, dont il le restitue, qui a une vraie influence, je trouve, sur le cinéma, en tout cas sur le cinéma indépendant américain, qu'on verra après dans le courant des années 80. Il y a vraiment quelque chose de très fort, quoi, qui s'il fallait encore rajouter sur le côté cet art de la narration et cette véritable écriture qui appartient à Frederick Wiseman.
Cette porosité entre le documentaire et la fiction qu'il faut bien souligner, hein, plutôt que de montrer une scission nette entre deux genres totalement différents. Wiseman, il la reconnaît, sans forcément s'en revendiquer. Mais en tout cas, il a beaucoup déploré, à juste raison ou pas, avoir été pillé dans son cinéma par le cinéma fictionnel. Il explique qu'après avoir fait High School, Mike Nichols ou je ne sais plus qui tourne un film de fiction sur le quotidien d'un grand lycée américain et montre le quotidien difficile des étudiants. Il expliquait comment il était écœuré, il avait été écœuré après avoir vu Full Metal Jacket, dont il expliquait qu'il avait reconnu, il croyait avoir reconnu son film Basic Training, tourné 15 ans plus tôt, je crois, où la structure dramatique de la première partie de Full Metal Jacket reprend à peu près exactement celle de Basic Training. Donc il expliquait que Kubrick l'avait tout piqué. Et beaucoup d'exemples, hein, comme ça de films de fiction qui, après les documentaires de Wiseman, se sont intéressés au même sujet, comme si d'une certaine façon, même si c'est un cinéaste peu vu comme on le disait, il avait quand même ouvert des portes, dessillé des regards, invité à aller faire que la caméra puisse aller à la rencontre d'une institution, d'un lieu qui jusque-là était relativement ignoré. Et il y a peut-être quelque chose d'important là-dedans, et c'est vrai que cette porosité entre la fiction et le documentaire, il s'en revendique en beaucoup plus frontalement en disant des choses intéressantes, même si c'est parfois sous le ton de la boutade. Il explique par exemple que Meat, pour lui, c'est son western. C'est son western à lui. Parce qu'on y voit des types sur des chevaux avec des chapeaux et puis qui vont tuer des bisons. On disait ce matin que Titicot Follies, qui sort un an avant La Nuit des Morts Vivants de George Romero, la représentation du corps difforme, du corps étrange, on y reconnaît quelque chose. Alors c'est peut-être accidentel ou pas, ou la coïncidence est peut-être fortuite, mais on y reconnaît peut-être quelque chose d'un cinéma qui relèverait du monstrueux, de l'horrifique, du fantastique. Dans Modèle, qui est sorti en 1980, la représentation de New York, des vues de New York dans ce film, sur le plan purement plastique, est très étonnamment voisine de ce que Woody Allen et son chef-op Gordon Willis, je crois, font en 1980 dans Manhattan, c'est-à-dire la même année. Il y a une volonté de mettre en scène New York et de donner à la vision de New York, film en noir et blanc, une espèce de densité matérielle qui est assez proche de ce que faisait Woody Allen. Et le discours parodique très acerbe de Wiseman dans Modèle est pas tellement loin finalement, même si le curseur de l'humour est pas placé exactement au même endroit chez Wiseman que chez Woody Allen. Et encore, il y a quand même une volonté d'aller satiriser le peuple bourgeois comme Allen ou d'autres cinéastes à la même époque voulaient le faire.
À l'inverse, dans les entretiens, il est très très content, et c'est ce qui lui fait le plus plaisir, j'ai l'impression, en lisant ces entretiens, quand les critiques lui font remarquer que certains de ses films documentaires leur font penser à des films de fiction. Quand on lui dit que ces films font penser à des films burlesques des années 20, il rougit, il est en pamoison, notamment quand on le compare au frère Marx. Donc il y a vraiment une volonté aussi de contrairement à ce qui a pu être écrit dans les années 70 sur Wiseman comme l'exception dans le cinéma américain. Il est quand même extrêmement américain, il s'inscrit dans une culture particulière et dans un cinéma dont il a conscience de l'histoire et des formes.
C'est vrai qu'il y a de l'humour. Hein, oui. Il y a vraiment de l'humour. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Moi j'en ai une dernière alors du coup, parce que c'est bientôt 20 là, donc peut-être une dernière question. C'est quelque chose dont on a discuté comme ça là brièvement tout à l'heure, mais je sais pas s'il y a une réponse, mais est-ce qu'on peut c'est-à-dire qu'il y a les films, il y a des heures et des heures de rush qu'on n'a pas vu, et donc il y a un film au final, mais je sais pas, vous êtes pas curieux de savoir qu'est-ce que parce que monter c'est couper, et donc qu'est-ce qu'il a coupé, qu'est-ce qu'il n'a pas retenu, enfin voilà, c'est je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas d'autres films à faire finalement avec ce matériau qu'il y aurait. Est-ce qu'il faudrait pas les presque faire une rétrospective des rushs uniquement pour eux-mêmes, quoi, pour de voir qu'est-ce que...
On va réserver la Cinémathèque pour 3 mois, et puis on pourra passer peut-être tous les rushs filmés par Wiseman depuis 50 ans, et je ne pense pas que ça suffise.
En non-stop.
En non-stop. Une belle expérience à vivre, à mon avis.
Non, mais là-dessus, il s'est pas exprimé, là-dessus, sur les... c'est-à-dire, parce qu'il y a le choix final, mais sur les... justement, sur ce qu'il y aurait derrière... de pourquoi, enfin, de séquences qu'il aurait partenu, mais ou pour quelles raisons, ou
pas que je sache. C'est pas un cinéaste qui a à cœur de se tourner sur ses œuvres passées. C'est vrai qu'il passe d'un film à l'autre. Une fois que le film est fini, qu'il est monté, qu'il est distribué, il est déjà sur le suivant. Donc aller revisiter les rushs d'un ancien film, à ma connaissance, pas quelque chose qui l'intéresse véritablement. J'imagine que tout est archivé à New York. Chez lui, de façon à peu près scrupuleuse. Maintenant, effectivement, il y aurait 1 million de films à faire avec les rushs écartés au montage par Wiseman. Mais de la même façon qu'il y aurait d'autres films à faire uniquement si on gardait les rushs qu'il a conservés au montage. On pourrait remonter ces films absolument autrement en ne gardant que ce qu'il a, lui, choisi de conserver. C'est vrai qu'on peut se poser cette question. On imagine qu'il a dû... rencontrer des situations étranges, des événements que pour des raisons finalement totalement rythmiques, il a choisi d'écarter. Et de même qu'on peut se questionner sur le pourquoi d'avoir gardé telle ou telle situation relativement plate peut-être dans son dans son montage. Mais bon, ouais, ce serait un travail d'archiviste qu'on peut laisser aux générations futures. Je ne suis pas sûr que Wiseman nous laisserait toucher au rush de ses films. Je pense qu'il considère que ses films sont des objets finis, à peu près complets et presque intouchables. Alors déjà qu'il s'offusque du fait que les chaînes de télé proposent des versions courtes de ses films pour faciliter leur diffusion, ou qu'il s'offusque du fait que certaines chaînes de télé proposent de passer des films en deux fois plutôt qu'en une seule projection de 4 heures. Si on proposait de faire des remontages de ce qu'il a choisi d'écarter.
Zakaï, là-dessus, non?
La même chose, comme il s'offusque aussi du fait que certains de ses films longs soient vus en plusieurs fois. Maintenant qu'il y a l'édition DVD, où quelques rares films sont disponibles sur Internet, voilà, il s'offusque quand ils sont vus en plusieurs fois. Et donc, il fait partie de ces cinéastes qui sont pour la diffusion en salle. Il faut que ce soit une expérience totale de la
durée. Complètement, parce que c'est un cinéma qui est complètement immersif. Hein, donc il y a la durée, mais parce qu'on est dans la durée, il faut qu'on soit dans la salle, parce qu'on ne peut pas être dérangé par autre chose. On est dans une immersion totale. C'est une véritable expérience à ce niveau-là.
Et oui, à ma connaissance, il ne s'est pas vraiment exprimé sur ce qu'il n'a pas intégré au film final. Voilà, c'est sa proposition à la fois temporaire et définitive aussi, et donc il n'en parle pas, en fait. Enfin, j'ai pas lu énormément à ce sujet-là.
Il explique qu'il est parfois déçu d'avoir raté des situations, par contre, d'avoir mis sa caméra en marche trop tôt ou d'avoir coupé trop tôt, et il explique que les longs et les très longs plans qu'il tourne, c'est parce qu'il veut être sûr, justement, de ne jamais rien rater. Et donc, ses plans sont peut-être de plus en plus longs au fur et à mesure de ses films, en tout cas, c'est l'impression.
Bah, disons que le numérique aide.
Ouais. Il s'est mis au numérique assez tard, quand même. Mmh. Il s'est mis au montage numérique assez tardivement. Mais je pense que la durée des plans dans ses films, que ça a été aidé par l'outil, les évolutions techniques de l'outil, sans doute, mais ça relève aussi d'une volonté du cinéaste de rater le moins de choses possible et de proposer des plans qui soient des immenses écrins de dialogue et d'événements et de micro-événements. Et les seuls regrets, les seules choses que j'ai pu lire personnellement sur cette question-là, c'est vraiment ça, c'est ce regret d'avoir raté des dialogues, d'avoir raté des événements, d'être passé à côté de ce qui faisait la pertinence du moment présent.
Bon, en tout cas, ratez pas les prochains films là de la fin de la rétrospective. Écoutez, merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi,
Franck. De ces lumières, de ces éclairages. Et puis, à très vite.
Nous, on remercie chaleureusement le public, la Cinémathèque, de nous avoir gentiment accueillis pour cette journée riche en discussions et en débat, et j'espère en proposition.
Merci beaucoup.
Merci.
Ainsi se termine cette émission. Je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans l'œuvre de Frédéric Weissmann. C'est un peu tard maintenant pour la découvrir à la Cinémathèque, mais ne loupez pas les occasions de voir et revoir ces documentaires. Cinématox se termine et vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.